C'est un grand honneur, une grande joie pour nous d'accueillir aujourd'hui Madame Michèle Perrot pour ce culte conférence. Oui, Madame, nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre présence. J'ai appris, puisque récemment vous avez été beaucoup interviewée à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, que c'est en 1973 qu'avec Pauline Schmitt-Pontel et Fabienne Bock, vous avez proposé un cours à Jussieu, Paris 7, un cours dont le titre était « Les femmes ont-elles une histoire ?» Voilà, donc de 1973 à 2023 et la sortie de cet ouvrage, Le temps du féminisme, eh bien, entre silence et rébellion, du chemin à la place des femmes, c'est aujourd'hui la lutte pour l'égalité, ce thème dont vous allez nous entretenir et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention.
Bonjour mesdames et messieurs, merci infiniment de m'accueillir. Vous savez, c'est la première fois que je parle dans un lieu tel que celui-ci, donc je suis un petit peu impressionné quand même, tout à fait, et d'autant plus que cette conférence s'insère dans une série et que je sais que la prochaine conférence sera faite par une femme franco-iranienne. Et comment ne pas évoquer tout de suite d'entrée ces femmes d'Iran qui se battent à la fois pour elles, s'habiller comme elles veulent, ne pas subir une domination masculine qui prend en l'occurrence des formes morales et religieuses, et qui se battent d'autre part pour la démocratie. Alliance entre féminisme et démocratie, c'est fondamental. Ça a été souvent dans le cours de l'histoire, peut-être pas toujours, mais malgré tout souvent. Alors, je les salue et je voudrais pouvoir exprimer encore davantage ma solidarité avec elles. Mais on se sent souvent impuissant. C'est ça la question d'aujourd'hui. C'est bien joli de dire qu'on est solidaire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, c'est ça qui est important. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de l'égalité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et au fond, il y a une première question qui se pose. Est-ce que cette égalité a existé? Est-ce qu'elle est l'objet d'une conquête? Vous savez que la thèse a été discutée, débattue. Par exemple, au XIXe siècle, il y avait plusieurs courants anthropologiques, je pense à Morgan, Barofen, d'un côté, et il y avait le marxisme. Engels, le compagnon de Marx, écrit dans les années 1840, un petit peu plus tard, un livre qui s'appelle « Des origines de la propriété, de la famille, de la propriété privée et de l'État », et dans livre dans lequel, reprenant les théories anthropologiques que je viens de citer, il défend l'idée d'une société primitive où hommes et femmes auraient été égaux, voire même matriarcales, sous le pouvoir des hommes. Et dit Engels, ce qui a changé tout cela, eh ben c'est le capitalisme. Voilà. Et par conséquent, faisons la révolution sociale et la révolution des sexes se fera après, dans la foulée. Et comme vous le savez, ça a été une ligne assez constante dans le communisme, le mouvement ouvrier aussi, on pourra y revenir peut-être. Cette thèse de l'égalité originelle est tout à fait contestée depuis déjà longtemps, notamment par les anthropologues, mais pas seulement. Et l'idée bien qu'évidemment nous ne savons pas grand-chose sur ces sociétés des origines, des temps. Mais enfin, tout de même, les préhistoriens, la préhistoire est un des secteurs les plus dynamiques de la recherche aujourd'hui. Hein. Et je pense aux travaux de Pascal Pic, par exemple, hein, et de bien d'autres, Guylaine, Jean Guylaine également, etc. Il y en a beaucoup. Et la plupart, aujourd'hui, concluent non. Enfin, on ne sait pas trop comment c'était organisé, mais c'était plutôt pas du tout égalitaire. Et comme vous le savez, Claude Lévi-Strauss, qui a beaucoup réfléchi sur ces problèmes, hein, l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss est d'abord une réflexion sur les structures familiales qu'il étudiait, hein, c'est-à-dire celles de l'Amérique latine, un certain nombre de peuples de l'Amérique latine, et puis ensuite une réflexion plus générale. Et on connaît les formules fameuses « échange des biens, échange des femmes ». Il montre que dans les sociétés qu'il a étudiées, les femmes sont un bien, parce que c'est elles qui portent les enfants. On ne sait pas trop à l'époque comment les enfants sont fabriqués. Hein. Ça, il faudra du temps pour qu'on le comprenne. Et par conséquent, pour les hommes, il est très important d'avoir ces ventres de femmes qui portent les enfants, qui donnent naissance à des enfants. D'autant plus étonnant qu'une femme peut avoir des filles, mais elle peut aussi avoir des garçons. Hein, ce qui, pendant très longtemps, a été en effet un grand problème. Par conséquent, cette anthropologie structurale, qui a été si importante pour notre réflexion, elle dit cela. Et celle qui va reprendre tout cela, réfléchir, donner des fondements à la pensée sur l'inégalité, c'est Françoise Héritier. Françoise Héritier, décédée il y a peu, 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans, a été une grande anthropologue, disciple de Lévi-Strauss, auquel elle disait d'ailleurs, mais échange des biens, échange des femmes, ça vous paraît normal, mais pourquoi vous ne réfléchissez pas davantage au rapport entre les sexes ? Claude Lévi-Strauss lui disait, parce que c'est comme ça, ça se passe évidemment comme ça. Et il discutait beaucoup et il lui a dit, allez-y, faites-le, réfléchissez à cela. Et Françoise Héritier a beaucoup travaillé sur ces problèmes et ses ouvrages fondamentaux, je ne citerai évidemment que les grands, hein, masculin, féminin, tome 1, La pensée de la différence, hein, qui est paru en 1996, qui est un livre absolument remarquable, où Françoise Héritier à la fois travaille sur les structures élémentaires de la parenté, selon la formule de Lévi-Strauss, dans les sociétés africaines sur lesquelles elle travaillait, ce n'est pas du tout l'Amérique latine, elle travaillait sur les bonobos notamment, hein. Et d'autre part, dans ce livre, elle étudie la philosophie. Comment est-ce que notamment la philosophie grecque, Platon, Aristote, hein, pensait la différence des sexes. C'est tout cela qu'elle met en scène, avec beaucoup d'autres choses, dans ce livre fameux. Et quelques années plus tard, 5-6 ans après, elle publie Masculin, Féminin, tome 2, Dissoudre la hiérarchie. Dissoudre la hiérarchie. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les historiennes, parce que moi je la connaissais très bien, Françoise Héritier, et nous étions plusieurs à discuter avec elle en lui disant mais Françoise, c'est passionnant tout ça, vous nous donnez les fondements de la réflexion sur l'inégalité, mais est-ce que vous croyez que c'est éternel ? Alors Françoise répondait aussi loin que l'on regarde dans le temps, aussi large qu'on regarde dans l'espace, on voit cela. Voilà. Mais est-ce que ça peut changer ? Voilà. Donc, du côté des anthropologues, il y avait cette espèce de sens des structures, des invariants, et nous, historiens, historiennes, nous étions plutôt préoccupée par le changement. Or, il se produit dans les années 70 un changement absolument considérable, qui est la conquête, il faut bien le dire, des femmes de l'interruption volontaire de grossesse. Et ça, c'est une révolution. Françoise Héritier elle-même disait, oui, là, il y a un événement. Elle disait même, c'est une révolution copernicienne. Et c'est pourquoi elle a écrit ce tome 2 en ouvrant, au fond, en confortant plutôt une perspective historique de changement possible, hein, qui a été celui-là. Je pense que toute cette réflexion est passionnante. Elle est passionnante à la fois dans ce qu'elle énonce et dans la manière dont elle s'est produite. Hein. C'est tout proche de nous et on voit comment, en effet, les choses peuvent se produire. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'il semble bien qu'il n'y ait pas d'égalité primitive, que l'égalité a été une chose à conquérir dans les sociétés plutôt modernes et contemporaines. Et d'ailleurs, il faut observer que on ne s'en préoccupait pas tellement. Hein. La pensée sur l'égalité est récente. Et elle s'est produite, ça peut surprendre d'ailleurs, par exemple au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y a une véritable réflexion sur ces questions de l'égalité entre les sexes. Un des grands théoriciens de l'époque, c'est Poulain de la Barre. Poulain de la Barre écrit un livre de l'égalité entre les sexes, où il pose la question, au fond, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas égalité entre les sexes? Pourquoi? Il est disciple de Descartes, et Descartes disait « La science n'a pas de sexe. » La science n'a pas de sexe. Non, voilà, c'est très important comme pensée. Poulain de la Barre s'inscrit dans cette perspective, et Marie de Gournay, qui avait beaucoup travaillé avec Montaigne, reprend ce thème-là dans un livre à peu près avec un titre à peu près équivalent, un homme, une femme, par conséquent, de manière très paritaire, avant la lettre, aborde ce sujet de l'égalité. Et le XVIIe siècle est passionnant, on ne va pas pouvoir le développer, mais on s'aperçoit que dans, naturellement, les classes aisées de la société, voire l'aristocratie, il y a des femmes qui s'emparent de ce thème. Par exemple, Madame de Rambouillet. Madame de Rambouillet, son salon bleu, hein, où elle dit aux hommes bottés, crottés, qui arrivent de l'armée, « Attention, moi, je veux beaucoup plus de respect, je veux beaucoup plus de soins, en quelque sorte. » Et la fille de Madame de Rambouillet, Mademoiselle de Scudéry, a été une des premières à écrire un roman. Hein. Le roman, au fond, c'est récent. Un roman qui raconte les amours interminables. Pourquoi? Parce que l'amour va toujours trop vite. Les hommes sont violents. Hein. Et la carte du tendre, au contraire, donne priorité aux déclarations d'amour, aux différends, à la découverte. Une manière, au fond, très moderne de penser l'amour. Et au même moment, les précieuses veulent s'emparer du langage, hein, et on se moque d'elles, les précieuses ridicules. Et l'Académie française arrive pour remettre de l'ordre dans tout ça et dire le masculin dans la langue, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Règle qui a présidé aux enseignements des petites filles depuis des siècles, et petites filles qui maintenant commencent à trouver tout ça étrange. Et d'ailleurs, la règle de le masculin l'emporte toujours sur le féminin est remise en cause à l'heure actuelle, y compris par l'Académie française, qui commence à réfléchir en effet au problème du rapport des sexes dans la langue. Par conséquent, c'est Il se passe des choses. Au XVIIIe siècle, eh bien, curieusement, le XVIIIe siècle, c'est quand même les Lumières. Hein, les Lumières. On aurait pu s'attendre à une suite dans cette réflexion. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a à ce moment-là un grand développement du naturalisme, hein, des sciences naturelles. C'est vraiment les grandes sciences de l'époque, la réflexion justement sur les espèces, la différence des sexes, etc., etc. Donc le naturalisme règne, et ce naturalisme évidemment réfléchit aussi aux hommes et aux femmes. Et du coup, les femmes apparaissent avec leur corps débile, leur corps fragile, on va même dire leur cerveau moins développé, etc., etc. Autrement dit, la féminité comme la masculinité s'inscrivent dans des corps sexués, dans des corps inégaux. Et cette théorie naturaliste, portée par un très grand nombre de médecins, va servir de réflexion politique, en quelque sorte. On a développé à cette époque-là ce qu'on appelle la théorie des sphères. La théorie des sphères était surtout anglaise, mais elle s'est diffusée en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour bien organiser une société, au fond, il faut distinguer. Hein ? Eh bien, on va distinguer le public et le privé. Le public, bah, ça sera les hommes. Hein ? Les hommes sont leur corps, leur intelligence, le fait qu'ils créent, voilà, c'est à eux que revient la direction de la société. Le public, au sommet du public, la politique, qui est l'art de la décision, évidemment, ça ne peut être que les hommes. C'est pas possible autrement. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les femmes. Non, non, pas du tout. Mais les femmes, c'est le privé. C'est le privé, c'est la maison, les enfants, la famille, le quotidien, etc., etc., sous le contrôle des hommes, tout de même. Et on va le voir surtout en France, en particulier. Bon, mais se priver, c'est important. Voilà, on leur laisse ça. Mais au fond, il y a là l'idée de la complémentarité des sexes et de sexes complémentaires, mais inégaux. Mais inégaux. Et c'est pourquoi la complémentarité, qui paraît harmonieuse, heureuse, a souvent été un piège. Hein ? Un piège pour les femmes, parce qu'après tout, consentir à être complémentaire, ça fait partie aussi de l'éducation des femmes. Hein. Les femmes donnent, elles se donnent, et par conséquent, y compris dans le domaine monétaire, une femme n'a pas à se polluer avec l'argent. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles sont pour autre chose. Autrement dit, il y a tout un système idéologique fondé sur les sciences naturelles, notamment, hein, éducatif et d'organisation de la société, qui est là à l'aube de l'ère démocratique, hein, puisque nous avons franchi le temps et nous sommes dans l'ère démocratique. Et c'est pour cela que la Révolution française, grande révolution, qui fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On pourrait évidemment se dire que le mot « homme » veut dire « êtres humains ». Et c'est ce que revendiquent aujourd'hui non seulement les féministes, mais beaucoup de gens dans le monde. Mais c'est beaucoup plus ambigu que cela au moment de la Révolution française. La preuve, c'est que Sieyès, après cette grande déclaration, Sieyès organise le droit de vote, distingue deux catégories, les actifs, les passifs. Les actifs, c'est ceux qui vont justement jouer les rôles publics et la politique. Les passifs ont droit à la protection de leur personne et de leurs biens, mais n'exercent aucune fonction publique, aucune, évidemment, aucune fonction politique. Beaucoup de femmes n'y ont vu aucun inconvénient. Il faut bien voir la France rurale de cette époque-là, les femmes paysannes avec tous les travaux qu'elles avaient à faire partout, très loin de la politique, etc., etc. Donc tout ça, ça passe un peu. Mais dans les villes, il y a des femmes urbanisées, il y a des femmes cultivées, il y a des femmes politisées qui sont scandalisées. Et c'est une Olympe de Gouges, que tout le monde connaît maintenant, absolument, venue de la province, elle venait de Montauban, elle était typique de ces jeunes gens et de ces jeunes femmes qui veulent avoir une vie et qui voient la vie par la ville et par Paris, Paris, bien sûr. Bon. Olympe de Gouges, 1791, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle reprend les termes de la Déclaration des droits de l'homme, mais femme citoyenne. Et en 14 articles, d'une modernité formidable, elle revendique le droit, comme elle dit, les femmes ont le droit de monter à l'échafaud. Elle en savait quelque chose, il y en avait déjà pas mal, et elle-même, elle allait peu de temps après être guillotinée. Les femmes ont le droit de monter à l'échafaud. Elles doivent avoir le droit de monter à la tribune. Et il y avait tout le développement des revendications politiques. Par conséquent, il y a là une affirmation apparemment contradictoire de la Révolution française avec une spécificité des genres, et il y a dès cette époque une revendication féminine pour avoir l'égalité des droits. Au fond, que demandent les femmes, sans le préciser encore véritablement, ça viendra après, c'est que les femmes sont des individus. Elles sont des individus libres et égales. Et cette revendication de l'égalité et de la liberté, eh ben c'est ça le féminisme. C'est ça le féminisme, c'est ça qui va être l'axe absolument essentiel du féminisme, féministe dont je vais évidemment vous parler en bref, et c'est à travers cela que les femmes ont progressivement conquis cette égalité, cette liberté que Olympe de Gouges et quelques autres revendiquaient dès cette époque-là. Alors, je voudrais vous dire un petit mot du féminisme, bien sûr, en vous disant tout de suite que les femmes n'ont jamais été passives, avant même le féminisme. Les femmes, il y a toujours eu des femmes qui ont protesté, qui ont agi, notamment dans la vie quotidienne. Françoise Héritier, encore elle, a parlé de la force d'obstruction des femmes. C'est-à-dire que quand les femmes n'étaient pas d'accord avec quelque chose, bon, elles étaient bien capables de résister, de freiner, et on en a beaucoup d'exemples dans les différentes sociétés. D'autre part, les femmes, avant la Révolution, tout cela, dans leur rôle traditionnel, étaient capables d'action. Il y a dans cette salle Jean Nicolas, grand historien, qui a étudié la rébellion française, notamment au XVIIe, XVIIIe siècle, et il montre très bien que les femmes se battent pour les subsistances. Les subsistances, c'est leur affaire. C'est elles qui s'occupent du vivre et du couvert. Et par conséquent, quand les prix montent ou que le blé vient à manquer, il y a des émeutes dites de subsistance et les femmes y jouent un très grand rôle. Autrement dit, bien avant notre époque, les femmes étaient capables de résister, de manifester. Elles le faisaient souvent dans leur rôle traditionnel, mais enfin, il pouvait aussi arriver que ce soit autrement. Et puis, il y a eu celles qu'on appelle les femmes exceptionnelles, c'est-à-dire qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui s'approprient des choses qu'on ne leur donne pas nécessairement, par exemple l'instruction. Car l'instruction était extrêmement inégale. Absolument. Pour les garçons, il fallait une éducation totale. avec le latin, qui était considéré encore à cette époque-là comme fondamental, et des sciences. Hein. Pour les filles, pas de latin. Les filles ont été interdites de latin pendant très longtemps. Et les sciences, surtout pas. Comment voulez-vous qu'un cerveau de femme comprenne quoi que ce soit en mathématiques ? Enfin, science masculine par excellence, ce qu'on disait évidemment à l'époque. Par conséquent, il y avait cette profonde inégalité et certaines femmes, plutôt dans les, évidemment, dans les sphères aisées de la société, dans l'aristocratie, dans la haute bourgeoisie, disaient, mais enfin non, nous on veut autre chose. Et par conséquent, on voit depuis Christine de Pisan, ça nous remonte au XIVe siècle, on voit des abbesses quelquefois, parce que les abbesses ayant la direction des abbayes étaient souvent des femmes cultivées et qui écrivaient. Hildegarde de Bingen est bien connue, il y en a d'autres, et là il y avait des foyers où quelques femmes, pas toutes, mais quelques femmes affirmaient leur intérêt pour la culture. Et puis, alors quand on arrive au XIXe siècle, aussi bien en Angleterre qu'en France, Madame de Staël, bien sûr, on va arriver à George Sand, mais ça c'est déjà une autre histoire. Par conséquent, il y a des rôles traditionnels, il y a des femmes exceptionnelles qui commencent à agiter un petit peu la protestation contre cette inégalité des rôles et à les revendiquer. Et nous les appelons féministes, mais bien sûr. Mais le féminisme, qu'est-ce que c'est ? Le féminisme, ce sont des luttes plus collectives. Pas ? C'est à cela qu'on donne le nom de féminisme, pas seulement une femme toute seule dans son bureau, même si c'est sa chambre, même si c'est très important, mais des groupes de femmes. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le mot féminisme est un mot récent. C'est un mot qui a été créé à la fin du XIXe siècle en France par Alexandre Dumas fils, le fils du grand Alexandre Dumas. Et c'était très péjoratif. Féminisme, ça voulait dire la maladie des hommes efféminés. Hein ? Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Juste vers 1872, c'est à ce moment-là que ça a été prononcé, écrit pour la première fois. Et il y a eu à ce moment-là des femmes très engagées, je pense à Hubertine Auclert, en l'occurrence. Elle avait lancé un journal qui s'appelait La Citoyenne, et elle se battait pour le droit de vote des femmes, hein, dès les années 1872, etc. Et Hubertine Auclert déclare, mais féministe, mais moi je suis féministe, je le suis. Hein. Et à ce moment-là, le qualificatif féministe est entré dans le langage, et les mouvements qui s'organisent à ce moment-là se déclarent féministes. En Angleterre, on n'a pas tout de suite adopté ce terme, on disait plutôt « women's struggle, women's war, women's lib », etc., etc. Peu importe. Voilà. Alors, le féminisme, eh bien, le féminisme, donc, les mots, les choses, c'est le grand siècle des féminismes, et il faut bien employer le pluriel, parce qu'ils sont divers. Les problèmes que les femmes avaient à aborder étaient des problèmes difficiles, on pourrait presque dire anthropologiques, et il n'est pas étonnant qu'elles n'aient pas été toujours d'accord. Hein. C'est même normal. Ce qui est important, c'est que les différentes vues soient énoncées, confrontées, et c'est quelque chose de très très important dans l'histoire du féminisme. Alors, les femmes, comment est-ce qu'elles se sont battues ? Elles ont créé des associations. Hein. Le XIXe siècle le permettait, donc il y a eu toutes sortes d'associations qui se sont créées. Il y a eu aussi la presse, hein. Le rôle des journaux. Ça a été absolument considérable. Les féministes ont très bien compris que si elles voulaient, à cette époque-là, hein, vous voyez naturellement les modes de communication, si elles voulaient sortir de leur rôle, de leur petit salon, de leur chambre, eh bien, il fallait qu'elles parlent à tous et à toutes. Et on voit bien au XIXe siècle l'existence d'une presse féministe, surtout au moment des révolutions, hein, parce que c'est ce qui caractérise l'histoire du féminisme, c'est qu'il est souvent intermittent. Il s'exprime dans les brèches du pouvoir. Quand le pouvoir est fragile, quand il y a des révolutions, les femmes, mobilisées d'ailleurs par les hommes quelquefois, pour faire des barricades, pour faire des manifs, etc., disent, ben oui, mais et nous, hein ? Et nous, nos revendications, alors on en a des revendications. Et c'est comme ça que le féminisme a une espèce de vie syncopée. Hein, on parle souvent de vagues, hein, première vague, deuxième vague, etc. Par vagues qui arrivent dans les failles du pouvoir. Voilà. Et c'est ainsi que dans les années 1830, 32, 33, par là, il y a eu une presse féministe remarquable. La femme libre, l'opinion des femmes, la vie des femmes, des très beaux titres. Ces journaux étaient souvent interdits, donc il fallait qu'ils se renouvellent, qu'ils recommencent, etc., etc. Et puis sous la Troisième République, il y a eu une presse beaucoup plus stable. Le grand titre, c'est La Fronde. Hein, La Fronde fondée par Marguerite Durand. Marguerite Durand qui était une actrice. Une actrice, c'est très intéressant parce qu'elle avait l'expérience du public. Hein. Être actrice pour une femme n'est pas évident parce que justement, la féminité est faite pour être cachée. Et une femme qui ose monter sur les planches, c'est peut-être bien une phase de mauvaise vie, hein, qui ne respecte pas beaucoup le rôle des femmes. Naturellement, c'est la société conventionnelle qui dit cela. Alors Marguerite Durand, très belle femme blonde, très féministe, crée La Fronde, premier journal écrit, composé matériellement, diffusé par des femmes. Voilà. Elle voulait que ce soit uniquement des femmes pour montrer que les femmes étaient capables de faire un journal. Ce journal a duré environ 5 ans. Il a été hebdomadaire. Il y a eu une tentative de quotidien, c'était pas possible, il est redevenu mensuel, enfin, etc., etc. Mais il est quand même fort intéressant, il y a eu des grandes journalistes, comme Séverine, pour n'en citer qu'une, et ce journal s'est résolument inscrit dans le combat démocratique, étant Dreyfus, à l'époque de l'affaire Dreyfus, prenant résolument parti pour Dreyfus, hein. Et s'inscrivant ainsi dans la lutte pour la vérité. Donc, La Fronde, oui, c'est bien, c'est vraiment un journal formidable et une très belle tentative des femmes. Donc, les femmes ont utilisé toutes sortes de moyens, bien entendu, y compris les manifestations. Les manifestations en France avec timidité, hein, beaucoup plus en Angleterre. Alors en Angleterre, les suffragettes, comme on disait, étaient des femmes qui, au contraire, occupaient la rue, voulaient faire des manifs, et tout le monde connaît, presque tout le monde, l'histoire de cette militante féministe anglaise qui a décidé de se précipiter à la tête du cheval du roi au derby d'Epsom, hein, en 1904 ou 5 par là, et qui a été tuée. Elle a été la première martyre féministe admirée, revendiquée par les femmes britanniques et évidemment par les femmes françaises. Les Britanniques, elles y allaient. Hein. Les suffragettes, c'est pas rien. Elles étaient particulièrement ardentes pour se manifester. Alors, que demandaient les femmes ? Qu'est-ce qu'elles demandaient, dans le fond ? Il y a toutes sortes de revendications qui viennent dans le temps de la société progressivement. La première revendication, ça a été l'instruction. Hein ? On a dit combien celle-ci était inégale. George Sand disait « Le manque d'instruction, c'est le plus grand crime des hommes envers les femmes. » Elle était vraiment tout à fait à la tête de ce combat en France. Donc, obtenir l'instruction. Et quand vous réfléchissez que ce n'est qu'en 1924, hein, ce temple existait, que le baccalauréat a été égal pour les garçons et pour les filles. Or, comme le baccalauréat est le titre qui permet d'entrer à l'université, cela veut dire qu'avant cette date, il y avait déjà des étudiantes, attention, hein, mais il fallait toujours obtenir une autorisation. C'était difficile, ce n'était pas un droit, puisque les filles n'avaient pas le baccalauréat des garçons, donc elles n'étaient pas capables, etc. 1924, garçons et filles passent le même bac, hein, en principe du moins, et elles peuvent par conséquent devenir étudiantes. C'est très intéressant, parce que Simone de Beauvoir, eh bien, elle est issue de cela. Hein, elle est issue de ce droit qui a permis enfin aux filles de devenir des étudiantes. Bon, alors, instruction, très important. Ça a été un front très important. S'emparer de la lecture et de l'écriture. Il faut dire, comme à ce moment, que le protestantisme, vous êtes ici les hôtes et les représentants, a joué un rôle positif dans ce domaine-là. Parce que depuis bien longtemps, la réforme notamment, il fallait, bien sûr, il fallait que les femmes puissent lire la Bible. Et ça a été, en effet, un argument important pour l'éducation des femmes. Et quand on fait, ça a été fait, la carte de l'Europe, ou en France, la carte de l'instruction, on s'aperçoit que les régions protestantes en Europe, dans les régions protestantes en Europe, les filles ont un taux d'alphabétisation bien plus élevé que dans l'Amérique, que dans l'Europe latine. Là, il y a vraiment une différence, et une différence qui tient à la religion. Et c'est pareil en France. À l'intérieur de la France, les régions protestantes sont... Dans les régions protestantes, les filles ont un degré d'alphabétisation supérieur. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets qui ont été bien étudiés. Mais je ne peux évidemment entrer dans le détail. Le deuxième front sur lequel les femmes se sont battues, c'est le travail. Avoir un travail, être reconnue dans une profession, gagner de l'argent, parce qu'après tout, on ne peut pas faire autrement. Hein. Ce n'est pas du tout de célébrer l'argent en tant que tel. Mais dans une société où l'argent existe, si on n'a pas le droit, c'est vraiment un problème. Et pendant très très longtemps, le rapport des femmes avec l'argent a été très compliqué. La féminité, c'est hors l'argent. Et encore une fois, ce que les femmes font, ça n'a pas à être calculé et mesuré. Le travail domestique est un travail obscur, silencieux, qui ne se paye pas, hein, c'est simplement comme ça. Et dans un système de don contre don, hein, que Marcel Mauss, par exemple, anthropologue, a particulièrement étudié. Et dès que les femmes entrent dans une sphère rémunérée, les choses sont compliquées. Ce n'est qu'en 1906 qu'une loi a reconnu aux femmes mariées le droit de percevoir elles-mêmes leur salaire. Si elles n'étaient pas mariées, elles pouvaient percevoir leur salaire, si elles étaient majeures, bien entendu. Mais une femme mariée, non. Son salaire, on le remet au mari. Bien entendu, dans la pratique, ce n'était pas toujours comme ça. Il y avait beaucoup de femmes qui, le mari disait, mais bien sûr, tu perçois ton salaire. Mais ce n'était pas tout de même... Un mari pouvait s'y opposer. C'est pourquoi il y a eu cette loi qui a dit, non, une femme mariée, elle a le droit de percevoir son salaire. Elle est reconnue comme cela. Donc, autour du travail, du salaire, de l'argent, il se joue énormément de choses. Et il se crée progressivement des métiers féminins moins payés, moins considérés, hein, dans l'ensemble du travail. Dans les couples, le salaire des femmes est longtemps dit salaire d'appoint. C'est-à-dire, c'est bien, si elle travaille, si elle apporte quelque chose, tant mieux, on va s'en féliciter. Mais ce n'est pas son rôle fondamental, hein, y compris dans les classes populaires, peut-être même là surtout, parce qu'un ouvrier, il a besoin d'avoir une ménagère, hein, à la maison. Et par conséquent, les jeunes filles de la classe ouvrière travaillent jusqu'à la mariage, à la naissance du premier enfant, et elles se retirent du moins du travail industriel, parce qu'on voit qu'elles sont toujours très très attachées, ces femmes des classes populaires, à faire des petits boulots. Hein, des petits boulots, garder un enfant, porter le pain, faire les courses, faire quelques heures de ménage, etc. Ces travaux obscurs, si mal rémunérés, hein, si peu comptés, mais à l'époque c'est comme ça. Et elles seront fières, contentes d'apporter ce complément, mais très souvent elles n'en parlent même pas, et c'est considéré comme presque un petit salaire de fête. Il y avait beaucoup de pratiques de cet ordre. Donc, conquérir le travail, l'égalité dans le travail, l'égalité à la fois du salaire et de la formation, parce que ça, c'est deux choses considérables, ça a été très important. Si vous regardez les accords de Matignon en 1936, très important, hein, ça a été vraiment une négociation sociale très importante, il y avait une seule femme aux accords de Matignon, elle s'appelait Martha Desrumaux, c'était une ouvrière du Nord, elle a joué un rôle tout à fait remarquable, elle s'est battue pour l'égalité des salaires hommes-femmes. Et on lui a dit, ah ben, oui c'est bien, mais enfin quand même on ne peut pas faire l'égalité complète, c'est pas possible. Hein. Donc on a maintenu dans les accords de Matignon un écart de 20%, c'est-à-dire que ça n'aille pas au-delà de 20%. Mais c'était parfaitement admis qu'il y ait à salaire égal, il n'y avait pas, à travail égal, il n'y avait pas salaire égal. Ça, il a fallu la libération pour qu'on adopte véritablement ce principe. Donc, c'est vous dire que dans le domaine du travail, eh bien, véritablement, c'est un monde. C'est un monde absolument. Alors, d'autre part, autre revendication, bien entendu, les droits politiques. Ça, on en a déjà parlé, hein. On en a parlé, on ne va donc pas trop y revenir. La politique, c'est l'affaire des hommes. Le public, c'est l'affaire des hommes. Un homme public, c'est vraiment le sommet de ce qu'on peut faire un homme. Une femme publique, c'est une prostituée. Hein. Les mots disent quelque chose de la considération des rôles dans l'espace public. Donc, conquérir la politique, oui, ça a été un combat très, très important que je ne peux développer ici, mais vous savez bien que c'est surtout après la guerre 14-18 que les différents pays d'Europe ont donné le droit de vote aux femmes. En Angleterre, c'est d'abord en 18, puis en 28. Enfin, il y a toute une histoire là en Angleterre. Mais en France, il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et nous sommes parmi les derniers pays d'Europe pour cette égalité politique entre les hommes et les femmes. Loi de 1944, premier vote en 1945. Et à l'Assemblée d'Alger, où cette question a été débattue, gaullistes et communistes étaient d'accord sur ce point. Par contre, les radicaux étaient contre le vote des femmes, parce que les radicaux disaient « Oh, les femmes, elles sont sous la coupe de l'Église, hein, donc elles voteront à droite. Vous allez voir, elles vont voter à droite et voilà, on va partir dans une nouvelle république avec les femmes à droite. » Bon, alors finalement, non, le droit a été créé. C'est vrai que tout à fait au début, le vote des femmes était plus à droite que celui des hommes. Et là, il y a eu une évolution tout à fait considérable que les gens de sciences politiques ont très très bien étudié. Donc, importance des droits politiques, et naturellement, il faudrait compléter cela en parlant de la parité. Hein, parce que le droit de les lois de 44 donnent aux femmes le droit de voter, mais on s'aperçoit que la représentation des femmes est très, très médiocre. Il y a eu, au moment de la libération, on a été jusqu'à 6-7% de femmes au Parlement. Hein. Et en général, c'était des femmes résistantes ou des femmes de résistants, des femmes ou des filles de résistants. Et quand cette génération-là a disparu, le taux des femmes a beaucoup baissé. Et il y a un moment donné où il y avait 2% de femmes au Parlement. Quand Simone Veil, en 1972, défend le droit des femmes à l'avortement, comme elle le dit, je m'excuse de le faire devant une assemblée composée en majorité d'hommes. Ben oui, ils étaient 90% d'hommes. Voilà. Alors, là, une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi la France a-t-elle été si retardataire dans ce domaine-là, alors que tout de même, nous sommes justement le pays de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais il faudrait évidemment beaucoup plus de temps. Alors, troisième front de droit, de revendication des droits, les droits du corps. Pas les droits du corps. Eh bien, les droits du corps, ça n'apparaît que au fond assez tardivement. Les femmes se débrouillaient mal avec la profonde inégalité corporelle. Et ça a commencé surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça, c'est vraiment les droits du corps, c'est les années 70-80. D'abord, avec la grande revendication du droit à l'IVG, on vient d'en parler, le rôle très important d'une femme comme Simone Veil et Gisèle Halimi, si on devait citer deux héroïnes de cette lutte, c'est vraiment Gisèle Halimi, les grands procès, hein, procès 72, Bobigny, fondamental, hein, la loi 74, et puis deuxième procès, 78, ex-Marseille. Alors là, c'est contre le viol. Hein. Il y avait deux jeunes femmes qui avaient été violées par trois hommes. Et Gisèle Halimi les a défendues. Elle a gagné le procès. Et la Chambre, un peu après, votait une loi sur le viol. Non pas que le viol n'était pas condamné, il l'était déjà. Mais dans des conditions obscures, avec une définition tout à fait insuffisante. Donc on voit bien, à travers cela, l'importance des droits du corps. Il faudrait ajouter, bien entendu, le droit fondamental à la contraception. La loi Neuwirth de 1967 avait reconnu ce droit à la contraception. Mais dans les pratiques, c'était difficile. Si vous regardez par exemple ce qui se passe du côté des communistes, eh bien, les communistes étaient favorables au droit à l'avortement. En Union soviétique, à l'époque de Staline, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Mais enfin, en gros, il y avait un droit à l'avortement. Par contre, ils étaient opposés à la contraception parce que les prolétaires doivent avoir tous les enfants qu'ils peuvent. C'est ce qui fera l'armée de la Révolution. Hein. Et il y avait une grande hostilité d'une femme comme Jeannette Vermeersch, qui était la femme du secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, contre la contraception. Un militant communiste, Jacques de Rogy, publie en 1956 un livre qui s'appelle « Des enfants malgré nous ». On voit bien ce que ça veut dire. Il est pris à partie, enfin condamné par Jeannette Vermeersch, exclu du Parti communiste. On ne pouvait pas parler de contraception au Parti communiste à cette époque-là. Voilà. Bon, tout ça, c'est pour vous montrer l'extrême difficulté des femmes dans la conquête de leurs droits pour des quantités de raisons, avec des oppositions qui viennent de différents côtés qu'on n'attendait pas toujours. Alors, aujourd'hui, avec MeToo, qui est un événement important, hein, nous sommes un petit peu dans la continuation de cette lutte pour le droit des femmes. On vient de parler du droit à l'avortement, de la lutte contre le viol. MeToo dit « Je ne veux plus qu'on me courtise ou on me touche si je ne veux pas. » si je veux. De même que les femmes de 70 disaient un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Hein, c'est très important. Et je fais juste une parenthèse pour dire que ça change non seulement la vie des femmes et la condition des femmes, ça change aussi le statut de l'enfant. Parce que passer d'un enfant subi à un enfant désiré, et le désir d'enfant est quelque chose de très important aujourd'hui, ça change évidemment complètement la place de l'enfant dans la société. Donc, les femmes changent pour elles-mêmes, mais leurs droits changent beaucoup de choses également dans la société. Voilà. Alors, je vais conclure rapidement, parce que j'ai passé largement, je crois, le temps de parole, pour dire que l'égalité progresse. Entre les hommes et les femmes, oui, l'égalité a progressé, surtout dans nos pays, surtout dans le monde occidental. Bien entendu, c'est pas terminé. Et on pourrait, je ne le ferai pas, parce qu'on n'a pas le temps, montrer les angles, les points, les fronts sur lesquels l'inégalité est flagrante toujours et encore. D'autre part, il faut aussi voir que c'est fragile. Hein. Les conquêtes sont fragiles. Elles peuvent être remises en cause. Il y a toujours une possibilité de ce que Faludi, qui est une théoricienne américaine, appelait le backlash. Hein. Retour en arrière. On le voit bien aux États-Unis aujourd'hui. Hein. Et on voit combien dans des pays européens comme la Pologne, là c'est le catholicisme qui est en cause, c'est difficile d'accéder à cela. Donc par conséquent, l'égalité, oui, non, fragile, attention. Et puis, il y a le monde, hein, le monde entier. Et dans le monde entier, les droits entre les hommes et les femmes sont loin d'être réalisés. Si vous réfléchissez qu'il n'y a qu'un seul pays en Amérique latine, l'Argentine, qui reconnaît depuis peu le droit des femmes à l'avortement. Ailleurs, non. Vous voyez que les droits des femmes ne sont pas réalisés et on pourrait évidemment multiplier les choses. Mais c'est aussi une raison pour que les femmes se manifestent davantage et que le féminisme, appelons comme ça tous ces mouvements pour l'égalité et la liberté, eh bien en définitive, le féminisme, c'est un agent, les féministes, ce sont des agents de la démocratie. Je crois à une alliance entre féminisme et démocratie pour un progrès pour tous, loin d'être réalisé, fragile, mais enfin qui nous attend. Et je vous remercie.